Émission.
L'ambiance est bonne, le café est bon. Ah ouais, ah oui, ça c'est vrai, on est bien reçu. Bienvenue aux compagnons. Ah oui, hommage spécial dédicace. Micro-sillon. Papa.
Alors, on en a peut-être oublié une phrase ou quelque chose de ce genre.
Bienvenue à Micro-sillon. Pour l'émission d'octobre.
Ce mois-ci, lors des semaines d'information sur la santé mentale, retrouvons le forum des partenaires le 8 octobre et le plateau radio de Micro-Sillon le 12. Le thème de cette année est respect des droits. Pour plus d'informations pour le programme, retrouvez-le sur le site internet de la mairie de Toulouse et sur le site internet des semaines d'information sur la santé mentale.
Pour débuter cette émission de rentrée, nous retrouverons Jean-Noël Donger qui va nous raconter ses vacances à Port-le-Cat.
Ensuite, dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, retrouvons le podcast de l'exposition qui a lieu sur les grilles du Jardin Royal tout le mois d'octobre.
Puis, on écoutera une musique de Olivier Serra et Capello, suivie par une chronique musicale d'un nouvel adhérent, Camille, à propos de Jimi Hendrix.
On poursuivra avec l'interview de moi-même, Vincent, sur David de la Fondation Marie-Louise, que l'on aura revu pour certains à la ferme Vivaldi. Voilà, qui nous aura parlé de DGM, des groupes d'entraide mutuelle, entre autres, d'une campagne de financement participatif et de la création de la Fondation.
Musique de Ludovic Auger continue. On va dire au revoir et bonne écoute.
Bonne écoute, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.
Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte.
J'ai passé de très bonnes vacances à Port-le-Cat dans un petit appartement dont je suis propriétaire. Mon beau-frère m'a accompagné et ramené en voiture. Nous avons fait les plus grosses courses avec ma sœur et ma nièce. Mais autrement, j'ai passé 3 semaines seul. Je me suis géré les autres courses à faire et la préparation des repas. J'étais au restaurant seul et profité de la plage. Je me suis géré mes prises de traitement, me suis baladé pour aller au port. J'ai passé des vacances à la mer et reposant, je trouve. J'ai même fait une prise de sang dans un cabinet d'infirmière à Port-le-Cat pour mon traitement. C'est la première fois que je fais ça pendant mes vacances. Maintenant, de retour au quotidien à Toulouse et Villefranche-de-Laguerre en pleine forme.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Bienvenue, chères curieuses et chers curieux. Pour ma santé mentale, respectons mes droits. C'est le thème des SISM, les semaines d'information sur la santé mentale de l'édition 2021. Le terme de santé mentale désigne la souffrance psychique sous toutes ses formes et sa conséquence première, le handicap psychique. Nous parlerons ici des usagers et ex-usagers de la psychiatrie. Le handicap psychique, comme 80% des handicaps déclarés, est invisible. Il est difficile de le prendre en compte et de s'en faire une idée. Parler de handicap psychique, c'est parler de handicap social et de déficit relationnel. L'ESSISME, c'est un événement annuel. Elle s'organise avec les acteurs du médical, du médico-social et du social. Nous aussi, membres de GEM, de groupes d'entraide mutuelle, nous y participons. Et un GEM, qu'est-ce que c'est ? Souvent, après une période d'hospitalisation, des suites de la maladie mentale, le vide peut prendre une place. Afin de sortir de la solitude et de l'isolement, ces associations ont été créées. Ce sont des structures hors du soin où il est possible d'apprendre à se construire en créant du lien et en réalisant que rien ne se fait sans les autres. Vous allez découvrir au fil de cette écoute le témoignage de membres de GEM. Ils ont été reconnus par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, comme vivant avec un handicap psychique. Donc cette année, on parle de respect des droits en santé mentale. Et qu'est-ce que cela veut bien dire ? On en a parlé avec quelques membres. Alors voilà. On parle de...
droit. Le droit au logement, au travail et sa liberté.
Droit de se représenter.
Droit
à la sécurité, au respect, à l'intimité dans les milieux hospitaliers.
Droit
à l'amour.
Droit aux soins de qualité.
Droit
à la prise en charge individuelle et en groupe en fonction de sa pathologie.
Droit
d'être citoyen.
Droit
d'être entendu, reconnu.
Droit
d'exister au sein de la cité.
Droit
de se défendre.
Droit
à la différence.
Droit
à la parole.
Droit
de se reconstruire.
Droit
au contact humain.
Droit
de ne pas y arriver.
Droit
à l'accès aux informations.
Droit
à rejouer.
Droit
de jouer.
Droit
à un bien-être.
Droit
de vivre.
Droit
de respirer.
Droit
bien manger.
Droit
à l'accès aux droits.
Droit
tenir compte que le droit ne peut être sous réserve, ça ne convient pas forcément.
Droit
d'être citoyen et d'exister au sein de la cité. Le mot citoyenneté désigne l'état ou la qualité de citoyen. C'est celui qui a le droit de citer. Être citoyen, c'est pas seulement avoir 18 ans et pouvoir voter. L'homme est citoyen par son intégration et sa participation sociale. La solitude, l'enfermement, la désocialisation sont fréquents. Et en plus d'une auto-stigmatisation, les phases de maladie empêchent bien souvent un bien-être social, créant un handicap dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce que rentrer dans une case pourrait permettre de s'inscrire dans le social? Pour ce projet, certains membres de GEM ont participé à sa création, se prenant au jeu d'entretien individuel en avril 2021. On y trouvera un théâtreux, une bibliothécaire, cosmonaute, un épris du micro, un artiste, une sans-filtre, une présidente de GEM et une membre de bureau d'association. Pour parler du respect des droits, nous avons évolué dans le contexte actuel. Donc, entre les confinements et les couvre-feux qui ont touché tous les individus en France depuis mars 2020. Durant cette drôle de période que nous vivons, un mois après le début du premier confinement est apparue la case sur les attestations dérogatoires de déplacement « Personnes en situation de handicap ». Elle a ouvert la possibilité de sortir à plus de 1 km et plus d'une heure les personnes de chez elles. C'est bien beau tout ça, mais à votre avis, comment les membres des GEM se sont emparés de la possibilité de cocher cette case ? Parce que c'était pas rien cette ouverture de droit en s'étant confinés. Ont-ils utilisé cette case ? Entre accès à l'information, peur d'utiliser ce droit, de ne pas être reconnu avec ce handicap invisible, auto-stigmatisation, honte, mais aussi, c'était peut-être une liberté offerte ? C'est en questionnant d'autres membres de GEM que je me suis rendu compte de l'utilisation propre à chacun. Les personnes interrogées n'ont pas eu toute envie de dire oui. Certaines ont dit oui, d'autres oui dans certaines situations, d'autres ne l'ont pas vu, et d'autres n'ont même pas eu envie d'en entendre parler. Oui ou non, le choix d'entrer ou non dans cette case a été possible. Et parfois, simplement le fait qu'elle existe était suffisant pour y trouver un apaisement. Une case vide qui devient pleine d'histoire. Cette notion de choix est importante. C'est ce que nous pouvons apprendre aussi au sein des GEM. Chacun fait des choix qui le regardent. Une notion en dehors de l'adaptation, en dehors du laisser-porter. Eh bien, cela, ça doit s'apprendre. Dans un GEM, rien n'est obligatoire. Il n'y a pas d'attendu. Pas de « il faut », pas de « tu dois ». L'individu fait le choix en fonction de son désir. Et pour qu'il puisse émerger, les vides d'un emploi du temps ont aussi leur rôle à jouer, laissant la place à une possible émergence. Et puis, ce n'est pas parce que c'est proposé que c'est obligatoire. Tout comme les attestations dérogatoires, rien que le fait que cela existe peut être suffisant. On a le droit de dire oui ou non, le droit de ne pas tout dire, de mentir aussi. Et pour certaines personnes, cela doit s'apprendre. Permettre à chacun d'avancer à son rythme dans ses propres découvertes au sein des GEM. Vous allez découvrir les réflexions des personnes interviewées des suites de cette première année de confinement. Bonne écoute!
Une période
mélange de,
très, très
de
difficile
de, et de malaise
de notre histoire,
qui se chevauche et
de notre histoire. Et
ça m'a pas beaucoup perturbé.
Tout ce qui est angoisse, dépression et le cri représente le gène peut être
la vie n'a plus, n'a plus de valeur.
Je suis le père. Je suis obligé de suivre les mouvements. Je me sens un peu perdu.
Me dit une image.
Symbolique du masque.
Ben, je sais pas, c'est un peu une traversée du désert. Ben, c'est aride.
Une drôle de vie.
C'est pas drôle. Personne en situation de handicap, c'est très bien d'avoir l'opportunité de pouvoir sortir plus que les autres, plus facilement.
Enfin, ils pensent à nous.
Et toi, tu l'as utilisé ce droit ?
Alors au début, je ne l'ai pas utilisé, puis dès le deuxième, je l'ai utilisé systématiquement.
Pas important. Comme si je fais consultation.
Oui, ça m'a pas bloqué.
Que le mot vulnérable, que par rapport à l'handicap psychique, à l'handicap plus général de la vieillesse, par exemple, la fragilité.
Bon, moi, j'avais la chance d'avoir un boulot où je pouvais me déplacer. J'avais la chance aussi de pouvoir aller consulter parce que c'était une psychiatre qui n'avait pas arrêté ses consultations. J'avais ces chances-là pour sortir, marcher, me balader.
Je ne me sentais pas légitime de le faire. J'avais le sentiment d'abuser sur mes droits, bien que je sache que c'est tout à fait légal de l'utiliser.
Au début, déjà psychologiquement, c'était difficile de penser déjà préparer une attestation pour sortir, s'autoriser à... Moi, je me donne des autorisations depuis longtemps.
J'utilise toujours en fonction de mes besoins.
Je ne sens pas trop parce que je ne vis pas ça en Allemagne, tu vois. Le caste, le fait d'être handicapé psychique, C'est, ici, c'est pour moi moins important que dans mon pays.
Ça m'a permis de faire baisser un peu les symptômes.
Je n'ai pas certaines informations.
Tu n'as pas pu échanger avec des personnes déjà ?
Si, enfin, j'avais entendu, mais bon, je sais pas, j'étais un peu méfiant. Voilà, j'étais pas confiant, puis...
Et oui, après ça me gêne pas, moi. J'ai pas honte, après je vais pas dire je suis handicapée. Montrer la carte mobilité inclusive, par exemple, dire je suis handicapée, non. Mais bon, je reconnais quand même.
C'est, grâce à cette case-là, une liberté possible. Alors là, je m'en suis emparée dès le début. Et maintenant, peut-être là où j'ai évolué, c'est que j'ai envie de communiquer aux autres cette possibilité de liberté. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne connaissent pas cette case ou qui ne savent pas comment s'en servir. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé dans les GEM de cette possibilité. J'ai milité autour de moi, j'ai envoyé des mails pour le dire. Vous avez le droit, si vous cochez la case et si vous avez des papiers qui attestent cette situation, vous avez le droit de sortir. Et alors certains l'ont pris ce droit, d'autres ont eu peur. Il y a aussi la peur du Covid aussi. Et d'autres ont eu peur des contrôles. Certains m'ont dit oui, la police. Je pense que c'est vital. Et là où ça m'interroge un peu, c'est que comment ils font les gens qui ne sont pas en situation de handicap ? Parce que j'imagine qu'eux aussi, ils ont des besoins de bouger, de se promener, de voyager. Ce que j'en ai comme écho, par exemple mes cousines, eh ben, elles mentent pour pouvoir bouger. Et ça, je me dis, mais alors les gens « normaux », entre guillemets, eux aussi, ils ont besoin.
Et s'il n'y avait pas la case handicap ?
Ah, s'il n'y avait pas la case handicap. Oui, parents, par exemple, mes parents qui sont âgés, je peux cocher « personne vulnérable ». En plus, ils ont quand même... Enfin, mon père a une fracture du col du fémur, donc
en
là,
plus,
pour
c'est
le
vrai.
Coup, ça, c'est vrai. Et heureusement que j'étais là pour les soutenir à ce moment-là. Mais sinon, pour moi, pour voyager, je crois que s'il n'y avait pas cette case, je ne me serais pas mis hors la loi. Je crois. Je n'aurais pas osé. Là, avec cette case, j'ose.
Lui, j'ai pas de tension ni de peur par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de contrôle, ni de sanction, ni de verbalisation, ou très peu. Je me déplace. Moi, j'ai ma maman qui a 97 ans, qui est à Marseille. Je me déplace et je vois pas de contrôle.
J'ai ma mère qui est âgée, et pendant le premier confinement, j'ai pas pu aller la voir. Au deuxième confinement, elle a accepté que je vienne la voir, et j'en ai profité pour utiliser cette case et aller la voir régulièrement.
Pendant ce premier confinement, j'ai quand même été contrôlée par la police 7 fois en 2 mois. Et chaque fois, j'étais en règle. Donc, il y avait une sorte de harcèlement. Enfin, moi, je le vivais comme un harcèlement. Et je me disais, mais alors, ce que disent les jeunes de banlieue, parfois, qu'ils sont super contrôlés, parfois aux faciès aussi. Je me disais, voilà ce qu'ils vivent, eux, pendant des années d'adolescence, où ils ont comme ça des contrôles tout le temps. Je me suis dit, mais c'est terrible. Pourtant, j'avais rien à me reprocher, j'étais en règle, mais le fait de devoir le prouver, c'était compliqué. Et même, parfois, je voulais le prouver encore plus que ce que j'avais dans les mains, quoi.
Une fois, j'ai eu un contrôle, et je ne me rappelle plus quel était quel était mon motif de déplacement. J'ai un certificat handicapé, un coup de cache, voilà. J'ai toujours ce truc avec moi. Ça te fait marcher.
Ben, en fait, j'ai des feuilles dans mon agenda et je les garde pour moi. Je crois que je ne m'en suis jamais servi, en fait.
J'ai fait deux fois une attestation, même voilà, il y en a une qui s'est abîmée avec le temps, qui est restée dans mon portefeuille, et l'autre que j'ai encore, j'ai mis sur 2 mois.
Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont honte. Des gens me l'ont dit, ça. Et certains m'ont dit, mais tu te rends compte, si on te contrôle, tu fais comment? J'ai dit, bah, tu sors tes papiers MDPH. Et il m'a dit, ah non, mais... voilà, les gens ont honte. Ils ne veulent pas qu'on voit... maison départementale des personnes handicapées, MDPH, oulala. C'est dommage.
Un GEM, ça veut dire groupe d'entraide mutuelle. Formé sous format associatif, il permet aux personnes vivant avec un handicap psychique de se resocialiser et de sortir de l'isolement. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne ?
C'est un moyen d'évolution, de reconnaissance, d'entraide, de valorisation par rapport à ce qu'on peut faire. On est plus spécialisé, on est moins dans l'occupationnel, dans le sens péjoratif du terme. On est moins comme dans un foyer où on te fait faire une activité artistique pour passer le temps. On est plus dans une démarche de... l'inclusion sociale, sortir de l'occupationnel, oui, c'est sortir, c'est... enfin, c'est déjà, l'occupationnel, c'est déjà un progrès, parce que la personne est quand même stabilisée, elle va vers un lieu d'activité où elle voit du monde, elle n'est pas dans l'hôpital psychiatrique, voilà. C'est bien que ça existe, mais c'est l'idéal, enfin, le mieux, je pense que c'est le... enfin, pour ma part, du moins... c'est le, comme nous on fait un micro-sillon, c'est le côté plus voilà, inclusion sociale, de savoir expérimentiel, la pérédance.
La création des GEM, elle vient un peu de là, de dire on est différent, mais on a besoin d'être reconnu dans nos différences. Donc les artistes, c'est des gens qui sont différents. Ils ont besoin de cette reconnaissance. C'est pas rien, pour moi, un artiste, il met du cœur dans son ouvrage, et dans les GEM, c'est là où on renverse l'échelle des valeurs. Et dès que c'est vécu en collectif et en entraide et en partage, et l'idée des GEM, c'était un peu ça, c'était déjà ouvrir des portes et permettre à des gens différents d'être différents, tout simplement, d'exister dans leur différence. Et d'être bien dans leur tête et de retrouver une bonne santé par juste la liberté de pouvoir développer leurs idées et les mettre en avant.
Ça m'a permis de sortir de ces états de noir, en fait. Bien maintenu grâce au WhatsApp.
On continue, hein, ça me permet.
C'est vital, cette chaleur humaine. C'est vital.
Noir. Et moi sentir l'enfermement.
Ça c'est d'un très grand soutien, oui. Les GEM, ça me permet de participer, d'être en lien avec des personnes, parce qu'en fait, moi j'aime les gens, j'aime les personnes, j'aime les gens, j'aime communiquer, j'aime échanger, j'aime rendre des services, aider, j'aime bien tout ça.
Du 4 octobre au 1er novembre, venez découvrir l'exposition photographique en lien avec ce podcast. Elle se trouve sur les grilles du Jardin Royal, rue Ozen, à Toulouse. À bientôt.
Micro-sillon, ou plutôt stream-sillon, tous les mercredis ou presque à 17h, vous pourrez nous écouter débattre sur le canal YouTube Association Micro-sillon, les mercredis à 17h. Thank you.
Retrouvez chaque mois nos émissions sur votre radio préférée, Micro Sillon, la radio qui dit une radio, mais il y a aussi plus que des mots. Micro Sillon, débat, parole, partage, savoir-faire de la radio. Ici, Micro Sillon, il y a le café qui est bon aussi, Open Café. Venez manger un morceau, et ça vous donnera la pêche. Et venez tuner à la radio. Micro Sillon.free.fr. Nous sommes diffusés dans une dizaine de radios. FMR Booster, La Locale, Bigès et Boomerang. Et sur notre site internet, venez nous voir, 5 avenue François Collignon, au quartier des Raisins. Vous prenez la ligne 27 et vous y êtes. Ici, il y a la création sonore et il y a aussi des fous rires aussi. Vous pouvez venir faire des ateliers aussi. Sillon, plus que des mots, une radio. Nous sommes diffusés aussi sur Radio Mon Pays 90.1 à Toulouse.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Bonjour, nous voici à la ferme Vivaldi, qui est aussi appelée la ferme Vaquier, donc à la fondation Marie-Louise, avec un de ses représentants phares, David. Voilà, donc ben, je laisse se présenter.
Oui, alors en représentant phare, je suis surtout donc, David Cambon, je suis le vice-président de la fondation Marie-Louise, mais aussi et surtout, je suis le papa d'un jeune handicapé qui a 23 ans, polyhandicapé, qui est pris en charge dans un établissement de la fondation Marie-Louise, et qui lui aussi vient profiter de cette ferme. Donc je suis marié, j'ai deux enfants, 23 et 25. Donc la Fondation Marie-Louise, comme tu me l'avais demandé, rapidement en quelques mots pour les gens qui vont nous écouter, c'est d'abord une histoire d'une dizaine de familles qui, il y a 40 ans, refusaient un peu la fatalité de ne pas avoir une prise en charge adaptée pour leurs enfants. Alors quand on dit une prise en charge adaptée, c'était des personnes handicapées lourdes qui, tant qu'ils étaient enfants, étaient prises en charge. Mais lorsqu'ils allaient devenir adultes, le seul choix qu'ils avaient, c'était soit de les garder à la maison, ces familles, soit de les rediriger vers des hôpitaux psychiatriques, ce qui ne correspondait surtout pas aux besoins. Et donc ils se sont dit, nous, on va essayer de construire une maison où certes, nos enfants sont ce qu'ils sont, mais au moins, ils auront un peu de chaleur humaine autour d'eux et ils seront bien. Et nous, le jour peut-être où on passera, passons-moi l'expression, à l'étage au-dessus, on pourra partir un peu avec la sérénité de savoir que nos enfants seront bien traités. Donc ça, c'était un projet un peu utopique. Et il y avait donc à l'époque une grand-mère, qui était la grand-mère du président fondateur, Claude Rousse, qui faisait partie de ces 10 familles. Et cette grand-mère qui écoutait ces discussions, puisque tous les soirs, elle venait chanter des chansons à sa petite fille, la fille de Claude, qui s'appelait Anne, paix à son âme, Anne. Et cette grand-mère, elle a dit à son petit-fils Claude, donc, je vais te donner un terrain de 2 hectares à Gratin-Tour et tu pourras y construire la maison pour Anne. Et c'est comme ça que l'histoire de Marie-Louise est née avec tous ses parents. Alors, ses parents, ils n'étaient pas seuls, parce que finalement, il n'y a eu que 10 familles, ça aurait été très compliqué pour construire cette maison. Donc là, ils ont mobilisé les amis, les copains, les collègues de boulot, les réseaux professionnels. Ils ont organisé des événements avec notamment une personne. Alors après, peut-être que les jeunes auditeurs, ils demanderont à Google, leur expliqueront qui est Lino Ventura, qui était un acteur très connu du cinéma français.
Qui a une association en son nom. Hein.
Exactement, personnage, pour ne pas la nommer, qui aujourd'hui a toujours des établissements. D'ailleurs, personnage existe toujours. Et Lino Ventura, il a eu un peu cette amitié pour ces familles de Toulouse qui se battaient pour l'avenir de leurs enfants. Et disons les choses comme elles sont, hein, Lino Ventura a usé un peu aussi de son réseau pour donner de l'élan à ce projet. Il a même financièrement un peu contribué à une époque où les caisses étaient commencées à se vider. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire de Marie-Louise est née, donc avec ces familles qui ont mobilisé des gens qui ont été sensibles à cette cause et des gens qu'on appelle les bénévoles avec un grand B, c'est-à-dire des gens qui donnent de leur temps au profit de causes comme était la nôtre. Voilà un peu l'histoire de Marie-Louise, comment c'est né, comment l'ADN de Marie-Louise est né. Et vas-y.
Je me permets de couper parce que par rapport au nom Marie-Louise, De ce que tu m'en as expliqué, c'était plutôt Anne. Donc pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas mettre son prénom ou...
Alors Anne, c'était c'était la fille de Claude, le président fondateur, et Marie-Louise, c'était le nom de la grand-mère.
C'est la grand-mère qui a donné le. Ok, donc d'où le nom. Okay.
D'où le nom, Fondation Marie-Louise. Parce que souvent les gens me posent la question, mais pourquoi Marie-Louise ? C'est une histoire, une jolie histoire finalement.
Et donc, de ce qu'on en comprend, pour ceux qui connaissent les GEM, c'est vous êtes un peu les pionniers, les ancêtres des GEM dans la création, l'historique de la fondation. Vu que les hôpitaux de jour, après, tu deviens adulte et étaient laissés un peu sans structure adaptée. Ben là, il y a les GEM aujourd'hui, mais avant, c'était la Fondation Marie-Louise.
Et c'est une, elle n'est pas fausse, ta grille de lecture, parce que GEM, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, groupe d'entraide mutuelle, il y a le mot entraide. Et toutes ces familles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont regroupées pour imaginer un parcours à leurs enfants qui allaient devenir adultes. Donc effectivement, cette lecture, alors après, je ne sais pas s'ils en avaient conscience, mais c'est ce qu'ils avaient compris. Et on en reparlera tout à l'heure. La journée d'aujourd'hui, ces journées inter-GEM, finalement, c'est comment tous ensemble, quels que soient nos parcours de vie, nos difficultés, nos maladies, tout ce qu'on veut, ben, comment on fait tous ensemble, on avance et on se reconstruit et on s'aide les uns les autres. Ça, c'est... Mais on va en reparler tout à l'heure, tu me poseras certainement des questions. Si on revient sur Marie-Louise, donc, j'ai parlé de l'histoire, et cette histoire qui a commencé il y a 40 ans, et donc qui a finalement initié cet idéal de vie pour des jeunes adultes handicapés, et qui, avec le temps, 40 ans après, donc un établissement, 2, 3, 4, 5, 6, aujourd'hui c'est 6 établissements, c'est 300 salariés, mine de rien, c'est 272 résidents, donc 272 familles qui ont une solution pour leurs enfants, c'est, sans abreuver de chiffres, c'est 18 millions d'euros de budget, et des financements ARS et conseil départemental en fonction du type d'établissement. Voilà un peu aujourd'hui le portrait qui est celui de Marie-Louise. Et j'ai parlé des établissements, et tout à l'heure, l'endroit où nous sommes, hein, et que les gens qui nous écoutent, on va essayer de trouver les mots pour leur décrire le bien-être, là, c'était de se dire, nos enfants, quoi, nos résidents, puisque ce sont des adultes, ont, comme tout à chacun, besoin un peu d'aller prendre l'air, de s'aérer, au contact de l'animal, au contact de la terre, et d'où ce projet de ferme Vivaldi. Alors là, on va faire un clin d'œil à Claude Rousse, quand même, un grand amateur de musique classique, donc pour ceux qui connaissent la ferme Vivaldi, les quatre saisons.
D'où Vivaldi, voilà.
Vivaldi, l'histoire de Vivaldi, les quatre saisons, et en même temps, voilà, la vie de la ferme s'articule autour des quatre saisons. Donc voilà, c'était ce petit clin d'œil, c'était plutôt sympa. Et c'était de se dire, au travers de cette ferme, au travers des animaux, au travers des chevaux qu'il y a à côté, comment finalement on vient s'apaiser, se faire du bien, prendre de l'air. Et c'est une forme de thérapie qu'on a appelée, nous d'ailleurs, nous dans la famille Marie-Louise, agri-thérapie.
Comme l'art-thérapie un peu.
Exactement, voilà, il y a l'art-thérapie, et bien ici, c'est cette relation à la culture, au jardin qui est à côté de nous, aux animaux, tout le grand chêne que les gens ne voient pas, mais ce grand chêne où tout le monde se retrouve, on mange ensemble, on boit un verre, on refait le monde et la vie tout simplement.
Et Vaquier, c'est le lieu dit en fait de la ferme.
Alors Vaquier, c'est le village, c'est un village en fait du Frontonnet. Ici on est dans le Frontonnet, donc parce qu'on a une vigne. Donc Vaquier est un village du Frontonnet et la ferme de Vivaldi ici donc est rattachée à la commune de Vaquier.
Et donc on en vient à la ferme, en fait j'aime la ferme, et comme voilà. Nous j'aime le canal ou comme j'aime la radio. Voilà les jeux de mots.
Alors, oui, mais tu fais bien de l'aborder sous les jeux de mots parce que j'aime la ferme, G-E-M la ferme, ou j'aime la ferme, finalement ouais. c'est à double sens. Mais finalement, dans notre réflexion, c'était de se dire, de penser à nos résidents, mais de se dire que cet endroit peut être un lieu de mixité pour tous les gens qui, à mon avis, ont eu des moments plus ou moins compliqués dans leur vie et de venir au travers de moments conviviaux et chacun à sa façon, s'asseoir dans un coin à l'orme d'un arbre, c'est venir s'apaiser, se faire du bien et de se dire qu'il n'y a pas que les résidents de Marie-Louise finalement. Et que tous ces profils qu'on retrouve dans les GEM, que tu évoquais tout à l'heure, dans ce parcours adulte, eh bien finalement, les GEM, ils avaient toute leur place dans cette grande ferme de Vivaldi qui fait 11 hectares. Donc, ouais, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, c'était une évidence pour nous dans ce... On a parlé tout à l'heure d'entraide. Finalement, entraide nous entre parents, entraide avec les citoyens que sont les gens qui sont dans les GEM, qui sont des gens qui ont leur parcours. Et c'est comment, tous ensemble, dans cette grande ferme, eh ben, c'était un bel outil pour se retrouver tous ensemble. On a dit ce GEM, la ferme, et on va citer, je ne sais pas, on pourra peut-être citer tous les GEM qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà, c'est faire un endroit où c'est le carrefour des GEM ici, finalement. On va dire que la ferme Marie-Louise est devenue le carrefour des GEM.
Le croisement, et pas la marque.
Oui, que tes auditeurs soient rassurés, on n'a pas de sponsor. Effectivement, on va rester sur le code de la route, on va rester sur un croisement ici, ou alors un parking commun, on va dire, où tout le monde se retrouve, et le but c'est d'être bien tous ensemble, tout simplement, faut pas aller chercher midi à 14h.
Mais par rapport à J'aime la ferme, moi je voulais dire que c'est un peu aussi faire revivre la ferme, comme à l'époque les agriculteurs, les paysans la faisaient vivre, c'est aussi un renouveau, je sais pas comment on peut le dire, un renouveau, une...
Si, alors il y a peut-être une autre grille de lecture, c'est de se dire nos agriculteurs, et alors tu connais le monde de monde rural, moi c'est pareil, j'ai grandi à la ferme, c'était de se dire que finalement cette terre, nos agriculteurs, les agriculteurs français, ils nous font manger quelque part, ce besoin premier de manger, mais finalement c'était de se dire que cette terre aussi elle peut en plus de nous faire manger, elle peut nous soigner.
Sur la diététique, tout à l'heure on en parlait, l'anorexie, la boulimie.
Oui, alors il y a cet aspect-là du soin dont tu parles effectivement, mais nous si on revient à nos résidents aussi, et donc le spectre il est très large, c'est de se dire que par exemple une personne lourdement handicapée, c'est de la faire sortir du train-train de son établissement et de venir dans ce jardin, de venir prendre de l'air, de venir goûter une framboise, de venir sentir un peu de menthe dans le jardin aromatique. Des choses très simples, aller au milieu des chèvres, toucher les animaux, c'est vraiment quelque chose de très où chacun à sa façon s'y retrouve.
Et vu qu'il y a des chevaux, il y a de l'équithérapie plus ou moins, en fait, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça.
Alors il y a l'équithérapie, il y a le sport adapté, et là c'est pareil. Alors effectivement, le cheval est une discipline, on va dire, de l'agrithérapie. Effectivement, nous on a des résidents dont on pensait qu'on leur avait mis des barrières inconsciemment, et finalement aujourd'hui ils montent à cheval, sont bien à cheval, parce que la finalité quand même c'est d'être bien, c'est le matin, c'est quand on se lève, c'est d'être heureux. C'est ça la finalité, et que donc autour du cheval, le cheval, mais il n'y a pas que le cheval. C'est vrai que quand même le cheval, c'est quand même quelque chose de particulier qui donne des résultats assez surprenants, mais d'aller au jardin, d'aller, la vigne en rentrant, les vendanges à Marie-Louise, c'est quelque chose de grandiose, avec la bandasse, on se retrouve, on s'envoie quelques raisins sur le front, mais ça fait partie de la tradition.
Comme les boules de neige.
Exactement, en général, des vendanges sans prendre une grappe de raisins sur le front, ce ne sont pas des vendanges.
Et par rapport aux vendanges, vous nous en avez même parlé l'année dernière, je crois, de venir à ces rencontres. Bon, il y a eu le Covid qui est passé par là, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire une partie avec vous.
Mais alors cette année, je peux d'ores et déjà commencer à donner une date, une estimation. Ce sera soit vendredi, que je ne dise pas de bêtises, 1er octobre, ou le vendredi 8 octobre. Ça reste là, c'est Dame Nature, là, toi et moi.
Je ne sais pas si ça sera diffusé à ce moment-là, parce qu'on fait des émissions mensuelles. Donc, mais merci quand même de l'information.
Ou sinon, avant que l'émission ne paraisse, on fera paraître l'information auprès d'Armel, qui après le diffuse. Et ceux qui voudront venir seront les bienvenus. Si, que tu l'as compris, c'est un endroit ouvert.
Mais pour finir sur cette interview d'ouverture, et là on va faire de clôture avec le sidecar, mais pourquoi un sidecar qui est quelque chose qui permet de transporter quelqu'un en moto? Donc il y a un projet qui a fait sa campagne, pas politique, mais sur un financement participatif, c'est Kiss Kiss Bang Bang, comme Ulule, c'est les mêmes styles. Nous on a fait sur Ulule, mais bon, peu importe. Voilà, mais je vais te laisser présenter. Le Jumbo Run.
Alors je vois qu'on peut être de cacher, tu viens d'informer quand même. Je pense que les renseignements généraux français, ils peuvent peut-être t'embaucher. Hein. Il est au courant de tout. Alors, Jumbo Run, alors effectivement, tu as parlé du sidecar, donc qui est une moto avec un espèce de petit panier à côté accroché avec une roue. Tu as parlé de transport. Alors nous, on l'a décliné sous un autre angle, c'est-à-dire que nos résidents, c'est plutôt en termes de sensation. Eux, parce que cette notion de transport, elle est toute relative pour eux. Par contre, la sensation que tu as en moto, elle est particulière. Et nous, pour nos résidents les plus handicapés, où il n'est jamais trop évident de trouver des activités. C'est un jour une éducatrice qui a eu cette idée géniale de se dire, et pourtant elle ne faisait pas de moto, elle n'avait jamais fait de moto, mais elle s'est dit que nos résidents, ça devrait leur plaire. Et effectivement, le seul souci qu'on a avec cette activité, c'est que les résidents, quand ils sont dans le panier, c'est pour les sortir, parce que bien entendu, ils ne veulent pas descendre, ils veulent repartir. Donc ça veut dire qu'ils sont bien. Et donc, partant de ce fait-là, on s'est dit que oui, elle avait raison et qu'on allait financer l'achat d'un sidecar pour, avec des bénévoles qui ont le permis moto, tout au long de l'année, effectuer des baptêmes un peu sur tous les établissements Marie-Louise. Et là aussi, je pense que tes auditeurs auront l'info. Dans la primeur, on va dire, c'est que l'année prochaine, pour la rencontre Intergem, je viendrai avec le sidecar et on fera des baptêmes de sidecar pour ceux qui n'en ont jamais fait. Donc ça va être plutôt sympa.
D'accord. Et pour finir, juste sur ce nom, bon, run, on a compris, rouler et faire un run, voilà. Mais le jumbo, l'éléphant ou... Enfin, quel...
Et je vois que oui, c'est effectivement, c'est Jumbo l'éléphant. Alors l'histoire, telle qu'on la raconte, la légende, en fait, ça vient d'Angleterre, où une association de montards voulait organiser une sortie caritative. Et il y avait un groupe d'enfants dans un établissement pour personnes handicapées qui rêvaient d'aller au zoo voir Jumbo l'éléphant. Et donc, ils avaient monté cet événement en disant, on va aller voir Jumbo. Tous les enfants, c'était, on va aller voir Jumbo. Et donc, en anglais, run, ça veut dire courir, se déplacer avec vigueur, avec force. Et donc, c'est devenu le mot Jumbo Run. Et donc, ce qui fait que même en France et aux quatre coins de la planète, lorsque des sidecaristes, se regroupent pour organiser des baptêmes, on appelle ça un Jumbo Run. Voilà la petite histoire.
Ok, et bien, que le Jumbo run au mieux. Mais si tu as quelque chose à rajouter, sinon on va conclure sur ces rencontres Intergem, que je peux dire que tu étais en lien avec le GEM Bon Pied, Bon Oeil, et Nomade, et que nous, on a été invités, Micro-Sillon entre autres, pour faire cet Intergem, un rassemblement entre groupes d'entraide mutuelle.
Alors, on va dire que tes auditeurs aujourd'hui ont eu la primeur de bien des informations, et quelque chose qui a été validé tout à l'heure, puisque l'idée venue venu, je ne sais plus de qui, c'était de se dire que dorénavant, chaque année, pour ces intergem, symboliquement, nous planterons tous ensemble un arbre et qui arrive à maturité au mois de septembre. Donc des arbres fruitiers, donc on va faire la liste des arbres fruitiers qui arrivent à maturité au mois de septembre, et comme ça, chaque année, au mois de septembre, on fera la cueillette tous ensemble, mais c'est surtout qu'on les mangera ensemble. Voilà.
Okay. Bon, merci encore et bonne continuation, et au plaisir de te voir sur Toulouse pour changer un peu du monde rural, venir dans le citadin, en ville.
Mais merci à toi et à très bientôt. Et bien donc, je retiens l'invitation chez Micro Sillon. Je vais caler ça sur mon agenda. Allez, ciao.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Débat, atelier, rencontre, ne rien faire.
Micro Sillon.
L'émission avec d'interviews, créations sonores, face pub,
etc.
Radio, une fois par mois.
L'émission.
Mais qu'est-ce que c'est que la politique?
C'est vrai ça, qu'est-ce
qu'est-ce que c'est la politique?
Politiquesque. Épisode Meuseau, la vie pire tout pire.
Bien sûr, Nicolas, tu es le bienvenu chez moi, vu que t'as hébergé Maïlis et qu'elle ne s'en est pas plainte.
Blanc aussi. D'ailleurs, c'est un des derniers défis de la naissance du monde d'amour. L'isolation...
Donc Monica te touche tous les jours.
Plus ou moins, mais pas littéralement. Là, c'était juste une allégorie. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on vive tous ensemble et pas en cellule ménagère comme maintenant.
Cette affaire de cellule me fait penser à ce type. Là, je me rappelle plus. Il était leader d'une manif et s'est fait arrêter chez lui. Il vivait tout seul.
Oh oui, les cellules ménagères sont vulnérables comme ça aussi. Mais je pensais plutôt à l'alternative des réseaux de lumière. Pour expliquer, c'est simple. Quand on se marie, on établit une sorte de contrat pour vivre ensemble.
Ah oui, le fait de s'aimer pour la vie, rester ensemble, tout ça.
Pour un réseau, c'est la même chose. Sauf que la promesse qu'on se donne mutuellement et de ne jamais abandonner l'autre tout seul, son petit ami, à moins qu'elle ne le veuille.
C'est chaud aussi.
Donc, on n'est pas limité à un seul être aimé. On peut aimer comme on veut, en configuration libre, tant qu'on ne laisse personne auquel on s'attache en position d'être seul.
Oh, mais c'est de l'amour libre, alors.
Oui, et quand des gens ont plus d'un petit ami, ils peuvent alors former une sorte de toile, d'où le nom réseau de lumière. Il n'y a alors pas de limite au pouvoir de l'amour, qui fera petit à petit fi des limites que le système pourrait lui imposer, au fur et à mesure que les rouages de ce dernier seront fidèles au réseau.
C'est super comme idée! Dis-moi qu'il n'y a pas de hiérarchie là-dedans!
Bien sûr que non, à part le respect qu'inspire être un nœud du réseau. Dans un réseau, contrairement à ici où mon cœur devient de pierre, le cœur et la capacité à aimer se développent, alors que vient le goût de la constructivité, du bien. Et des hatoto!
Hatoto!
C'est toute une version de hato, cœur en japonais.
Ah oui, j'allais dire des moments qui font bien au cœur.
Donc en fait, c'est une vision pire tout pire de la vie?
Effectivement, c'est une manière très intelligente de le penser ainsi. Penser la relation avec autrui sans hiérarchie parce que l'on l'aime et n'a pas besoin de sécuriser son amour. Je vais vous dire un truc. Proudhon, un des plus grands penseurs anarchistes, était un misogyne. Il ne pouvait pas imaginer la relation avec sa femme sans hiérarchie, car il avait trop peur de la perdre. Elle substituait à l'amour maternel qu'il avait perdu à la mort de sa mère.
Personne ne respecte le travail d'une mère.
Cet exemple montre à quel point la sécurisation de l'amour mène à la destruction de l'amour, et à quel point la hiérarchie pervertit la pensée de l'amour. Tout le monde a besoin d'un amour inconditionnel, comme celui que nos mères nous ont donné. Celui que tu donnes chaque jour.
Mais notre amour inconditionnel est exploité. Mais attends, ton réseau de lumière, là, il rend l'amour le plus inconditionnel possible, car les gens aiment à leur escient.
Cool,
c'est décidé. Je vais t'en donner de l'amour inconditionnel, Nicolas. On va peut-être essayer ce réseau ensemble. Je vais y réfléchir.
Le monde d'amour et l'aventure du futur de tous.
Ah, tiens, c'est la fin du chapitre.
Et de la rubrique. Rappelez-vous en bien, le quatrième mur.
Sans mur.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.